Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 2. De Port-Breton à Port-Joinville. Dans l'épisode précédent, on a raconté la vie sur l'île-dieu au début du 19e siècle, à l'aube de grands changements qui nous impactent aujourd'hui encore.
Nous voici donc dans le petit havre d'échouage de Port-Breton, ancien nom de Port-Joinville, aux prémices d'un immense chantier qui, pendant toute la deuxième partie du 19e siècle, va profondément remanier le port de l'île-dieu et transformer la vie de ses usagers. L'activité traditionnelle de cabotage, en crise depuis la fin du 18e siècle, périclite. L'apparition et le développement du chemin de fer, qui relie peu à peu les grandes villes du continent, ont fait naître une concurrence à laquelle le cabotage ne parvient pas à faire face. Depuis l'ouverture des premières lignes françaises de marchandises et de voyageurs entre 1827 et 1830, il s'avère moins coûteux et plus régulier d'acheminer les marchandises par voie ferroviaire que par voie maritime. Sur les 180 caboteurs que comptait Port-Breton au début du XVIIIe siècle, il n'en reste qu'une vingtaine un siècle plus tard. L'île traverse une crise économique et la pauvreté touche de nombreuses familles.
Habitués à des conditions de vie difficiles, les habitants renouent avec la polyactivité traditionnelle, vivent au temps de l'agriculture et de la pêche côtière. Cette petite pêche a touché l'île, comme on dit, nourrit la population insulaire depuis des siècles, mais ne constitue encore au 19e qu'une activité vivrière dont l'isolement de l'île ne permet pas l'exploitation marchande. Sur l'île, on survit donc pour un temps, mais les marins, qui sont nombreux dans le port, doivent envisager une reconversion de leurs activités. Certains se tourneront vers la navigation au long cours, sur les grands voiliers long courriers qui appareillent de Nantes ou de Saint-Nazaire.
Nantes, Rouen, Le Havre, La Rochelle sont alors de grands ports d'armement pour la navigation commerciale autour du monde. Sur un siècle, l'île-dieu comptera une centaine de capitaines au long cours, sans compter les hommes d'équipage. Mais ce phénomène reste limité et très circonscrit au 19e siècle et au premier tiers du 20e.
De fait, la majorité des anciens marins au cabotage se réorientent plutôt vers la pêche ?
C'est ça. La pêche côtière, comme celle des crustacés, se développe sur cette période. Mais c'est surtout la pêche au large, et principalement la pêche au thon blanc qui se développe. D'autant que les équipages des caboteurs insulaires la connaissent bien, puisqu'ils la pratiquaient déjà pendant la morte saison du cabotage. C'est une profonde reconversion. Il faut dire aussi que dans cette fin du 19e siècle, le marasme du port de l'île-dieu n'est pas une exception sur la côte. Et sur la période qui s'annonce, son histoire est intimement liée à celle des autres ports vendéens.
À titre d'exemple, au XVIIe siècle déjà, la renommée et le rayonnement du port des Sables d'Olonne, grand port d'armement à la morue, a fait la prospérité des ports poitevins. Mais au lendemain de la Révolution et de l'Empire, il se trouve aussi dans une situation économique et démographique catastrophique. Les ports de la côte vendéenne sont à l'abandon et, faute d'entretien, ils s'ensablent. Au début de la monarchie de Juillet, 1830-1848, le gouvernement de Louis-Philippe fait face à une situation économique très morose et le régime, attaqué de toutes parts, n'arrive pas à trouver de majorité stable. Alors, pour se concilier l'opinion publique, le roi et son gouvernement tentent de prendre des mesures populaires et lancent notamment un programme de grands travaux.
Sur la côte, les élus vendéens, face à la nécessité de développer de nouvelles activités économiques sous peine de voir leur port disparaître, vont mener une politique volontariste pour convaincre l'État d'y entreprendre une série de travaux dont l'importance structurelle va se révéler décisive pour l'avenir des sites et des métiers. En exemple, la Grande Jetée au Sable d'Olonne, ou encore à Saint-Gilles-sur-Vie et à l'île-dieu.
Alors, qu'en est-il de Port-Breton avec tout ça ?
Comme leurs homologues vendéens, à Port-Breton, les élus locaux, conscients de l'importance du cabotage pour l'économie de l'île, entendent bien aussi mettre en œuvre des projets trop longtemps retardés. Port-Breton, en 1832, est une crique à trois entrées, défendue par trois môles vétustes plus ou moins parallèles au rivage. C'est un port de relâche, relativement abrité, apprécié par les caboteurs qui naviguent entre Loire et Gironde.
Cependant, tous s'accordent sur le fait que les houles de Norrois, les plus fréquentes, en se propageant le long du parement extérieur du Grand Quai,
premier élément de l'ensemble que l'on appelle aujourd'hui le Quai du Canada,
viennent pivoter autour du musoir,
c'est-à-dire sur le bout du quai,
et provoquent une agitation dangereuse dans le port au moment de la pleine mer.
Agitation d'autant plus dangereuse que, fréquemment, en hiver, les embarcations et les navires sont amarrés bord à bord.
Pressé par les élus locaux, en 1834, le service des ponts et chaussées lance enfin le chantier de Port Breton, pour notamment protéger l'intérieur du port vulnérable aux lames du Norrois, particulièrement violentes lors des tempêtes d'automne et d'hiver. Cette première phase de travaux se déroulera de 1834 à 1843.
Parallèlement, entre 1835 et 1837, on établit sur le musoir du Grand Quai une tour tronconique en pierre, haute de 4 mètres, avec un balcon entourant la lanterne. Ce phare est mis en service le 20 juin 1837. Il est, parmi les phares du port, le seul ouvrage ancien toujours en service. Et il participe, encore aujourd'hui, avec les nouveaux feux mis en place, au balisage de l'entrée de Port-Joinville.
Près du phare, on installe également un mât de signaux.
Oui, et enfin, pour faciliter la sortie du port des navires, qui sont encore très majoritairement des navires à voile, on construit une tourelle de touage.
Pourquoi ça ?
Parce que pour sortir de Port-Breton, les bateaux doivent tirer des bords dans la passe qui est étroite. La manœuvre est délicate par tout temps. Mais quand les vents sont dans la passe, c'est-à-dire orientés au nord-nord-est, les bateaux se retrouvent bout au vent et deviennent inopérants. En virant au cabestan, une amarre fixée à la tourelle, on peut obtenir le déplacement du navire même par vent contraire, ce qui constitue une aide précieuse pour sortir du port.
La construction du premier tronçon de la jetée nord-ouest, elle, est apparemment achevée en 1836, éloignant les effets de la mer du lieu de stationnement des navires. Mais ceux-ci sont encore exposés à un ressac violent au fond du port pendant les gros temps. C'est pourquoi, en 1837, pour neutraliser les remous à l'intérieur du port, débute la construction d'un brise-lames circulaire sur les rochers dans la partie est du port.
Mais il semble que le chantier ait quand même eu à pâtir de l'instabilité du régime sous Louis-Philippe.
Oui, il faut attendre la stabilisation du régime et le décollage économique du pays entre 1840 et 1846 pour voir les travaux reprendre. Sur les rochers du port, on achève la construction de la partie circulaire de la jetée nord-est, ce qui correspondait autrefois à la demi-lune et actuellement au quai de la Criée et de la Glacière. Ce brise-lames, développé en arc de cercle sur la face intérieure du rocher du port, vient fermer le plan d'eau entre les deux passes d'accès.
Puis, de 1842 à 1845, entre la batterie de la chapelle et l'enracinement de la jetée nord-ouest, on construit un mur de garantie, destiné à protéger la côte des attaques de la mer, parfois si violente en cet endroit que nos anciens l'avaient baptisé le Cap Enragé. C'est le quai de la chapelle. Parallèlement, le déploiement des feux sur la façade atlantique se poursuit. On dote le port de l'Île-Dieu d'un nouveau phare destiné, par son alignement avec celui du Grand Quai, à indiquer aux navires qui entrent dans le port la direction de la passe principale. Ce phare, construit en 1845, est situé en retrait des quais, dans une rue qui ne s'appelle pas encore la rue des Mariés. D'une hauteur de 18 mètres, il est conçu sur un plan carré, avec à sa base un logement de gardien. Comme le phare du Grand Quai, son feu fixe a une portée de 9000 en mer.
Le phare de la rue des Mariés, ainsi que nous l'appelons aujourd'hui, est mis en service au début de l'année 1846. Cette même année, on installe également une potence photophore au bout du brise-lames de la jetée nord-ouest.
Mais alors, comment Port-Breton est devenu Port-Joinville ? Et qui est-ce ce Joinville qui donne son nom au port de l'Île-Dieu ?
François, Ferdinand, Philippe d'Orléans, prince de Joinville, est le troisième fils du roi Louis-Philippe qui sera le dernier roi de France à gouverner. Né à Neuilly, le 14 août 1818, il sera élève de l'école navale avant d'entreprendre une carrière remarquée dans la marine. Promu contre-amiral en 1844, c'est un farouche partisan de la modernisation de la flotte française, au sein de laquelle il encourage l'introduction et la multiplication des navires à vapeur. Également conscient de l'importance de la mise en défense des côtes, il aurait contribué, par son soutien efficace, à l'agrandissement et à l'aménagement du port de l'Île-Dieu. C'est pourquoi, par ordonnance royale en date du 4 février 1846, le port principal de l'Île-Dieu perd le nom de Port-Breton pour prendre le nom de celui que la municipalité en place reconnaît comme son bienfaiteur, le prince de Joinville.
Mais le nom Port-Breton sera encore utilisé par la population, les employés municipaux et l'inscription maritime, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Tout avance. Le Port-Breton devenu Joinville prend la tournure qu'on lui connaît. Mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu.
En effet, au Sable d'Olonne, les grands armements morutiers ne renaîtront pas de leurs cendres. Et à l'Île-Dieu, le déclin du cabotage de port à port entre Loire et Gironde ne sera pas enrayé.
En 1862, soit 4 ans avant l'arrivée du chemin de fer au Sable d'Olonne, l'Île-Dieu compte encore 125 marins qui se déclarent comme maîtres au cabotage. 30 ans plus tard, en 1892, alors que se profile l'arrivée du chemin de fer à Challans, en 1896, ils ne sont plus que 48.
Oula ! Alors qu'est-ce qui se passe ?
En sauvant les ports d'une complète disparition, les aménagements portuaires vont permettre le maintien d'une petite pêche côtière qui prendra tout son essor dans la deuxième partie du 19e siècle.
La côte vendéenne dispose d'atouts que le déploiement des nouveaux moyens de communication et le progrès des techniques industrielles vont bientôt permettre d'exploiter. Parmi ceux-ci, il y a la largeur du plateau continental et la richesse de sa faune marine. Mais surtout, la présence à certains mois de l'année de deux poissons migrateurs, la sardine et le thon.
Un autre phénomène est déjà à l'œuvre, qui va profondément impacter la vie des ports vendéens. Devinons un peu. Le chemin de fer est là sur la côte, la pêche prend du poil de la bête grâce à la sardine et au thon, le port est aménagé. À Nantes, une nouvelle activité prend son essor. C'est l'industrie de la conserverie, dont le développement extraordinaire va, pour un temps, sauver les ports du marasme économique.
Au tournant du 19e et 20e siècle, c'est un petit poisson qui...
À l'instar des berniques, dont nous vous disions qu'elles avaient dû jadis sauver nos ancêtres des 17...
va sauver l'économie de l'Île-Dieu et celle des ports vendéens.
On se retrouve au prochain épisode pour la suite.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou,
voix, Sylvie Monlahuc
et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perro.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.